des réseaux qui nous intéressent.
Radio Canu, la plus rebelle des radios.
That boy you call is a diamond fella. All you little boys are a comedy of errors. You fellow with your fellows get tamed like the cello. I'm doing my thing, you're jealous like a fellow. And you, what are you gonna do? Little boys get tamed like the shoe. You're midsummer dreaming, your tunes ain't appealing. I'm Capulet, you're Monarch, you ain't feeling. I am the Julius Caesar, hear me. The merchant of Venice, couldn't sell your CD. As for me, all's well that ends well. Your boys like Macbeth, you're going to hell. Measure for measure, I am the best here. Your merry wives, the winds are not King Lear. I don't know about Timon, I know who's in Athens. I come back like Hamlet, you pay for your actions.
Bonsoir, il est 19h passé de 6 minutes et c'est l'heure du Canu Info.
Et ce soir, The Pirate Bay est down.
On va revenir sur la loi Macron.
Et puis la guerre des polices.
Ensuite, on va parler de Thierry Lepan, qui s'accroche à la CGT.
Aux États-Unis, deux condamnés à mort ont été exécutés.
Et ensuite, on aura un minuscule, il faut que ça se sache, avec les évasions Howard des centres de rétention.
I am the one with the force. Your history just like Henry the Fourth. I'm fire, things look dire. Better run like Pericles, Prince of Tyre. Off the scale, cold as a winter's tale. Titus Andronicus was bound to fail. So will you if a Carla get at ya. That's suicide like Annie and Cleopatra. Cymbeline, she was a man of David to Jones. Love's labor's lost a woman on her own. She needed two gentlemen.
T'avais pas une petite actu en bref, toi?
Ah oui, t'as raison. C'était quoi déjà? Ah, c'est ça, Center Park, là, vous savez, ce truc à Roibon, là, l'histoire de la ZAD de Roibon. Eh ben, c'est en bref parce que c'est pas non plus si fou que ça, mais en tout cas, le tribunal administratif devait examiner la demande de suspension des travaux de défrichement sur le site de ce fameux futur Center Park. Et donc, vous savez, il y a eu des manifs et des manifs contre, et puis là, ce week-end, il y a eu des manifs pour le Center Park. Et donc là, le tribunal administratif a décidé de reporter son audience au 18 décembre. Pourquoi il a décidé ça? Parce que la FRAPNA a introduit un nouveau recours et que le juge n'a pas non plus envie de faire une séance toutes les semaines. Donc il a décidé d'examiner tous les recours d'un coup. Les autres recours qui avaient été introduits jusqu'à maintenant, c'était quand même plutôt par la Fédération de pêche de la Drôme. Donc c'est eux, les sortes de ZADIS de Roibon. En fait, c'est pas que, mais c'est eux aussi dans ce camp-là. L'Union Générale des Fédérations Départementales des Associations Agréées de Pêche. Donc c'est à part les hippies et tout ça, c'est surtout les pêcheurs qui sont opposés à ce Center Park. Et donc le juge doit pas du tout se prononcer sur le fond, hein. C'est juste de savoir si les deux arrêtés qui ont été émis par le préfet de l'Isère, le 13 et le 16 octobre, sont légaux ou non. Le premier de ces arrêtés autorise le projet au titre de la loi sur l'eau, tandis que l'autre permet la destruction d'espèces protégées et de leurs habitats. Les espèces protégées étant des amphibiens, des reptiles, des écureuils, des écrevisses à pied plat, etc., à pied blanc, etc. Et puis, relativement bref aussi, un relativement haut responsable palestinien du gouvernement palestinien, enfin du gouvernement palestinien, de l'autorité palestinienne, a été buté aujourd'hui pendant une manifestation. Les soldats israéliens l'ont chopé et l'ont éclaté à coups de crosse. Voilà, il est mort.
Alors, eh ben, tout le monde connaît ce fameux site de référencement de liens torrent qui s'appelle The Pirate Bay. Et eh ben, si vous l'utilisez assez régulièrement, vous avez pu vous rendre compte que depuis quelques jours, il était mort. Alors, The Pirate Bay essuie deux mauvaises nouvelles en quelques jours. La première concernait uniquement la France, puisque le TGI de Paris a obligé le blocage par les fournisseurs d'accès à Internet, donc c'est-à-dire ceux qui vous payent votre abonnement, Free, Orange, etc. etc. Du coup, ils ont obligé les fournisseurs d'accès à bloquer le site Pirate Bay, du coup à vous interdire l'accès.
Quoi? Mais comment en Chine, quoi?
Ouais, non, c'est oui, au-delà du fait que ce site est bloqué et que c'est chiant, c'est ultra craignos sur la liberté d'Internet, comme on dit.
Est-ce que c'est une suite de cette loi contre les djihadistes, là?
Ça, je sais pas du tout sur quoi s'est appuyé le tribunal pour pour prononcer ça. Mais en tout cas, ils ont quand même prononcé cette interdiction. Du coup, sur l'adresse thepiratebay.se, qui était la dernière adresse sur laquelle on pouvait se rendre sur le site, ainsi que tous ces sites miroirs. Alors, les sites miroirs, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais on en avait parlé quand il y avait eu un jugement qui avait interdit l'accès à CopWatch Nord IDF. Et du coup, comme souvent sur des décisions de justice comme ça, à chaque fois qu'un site se fait bloquer, il y a tout un tas de sites miroirs qui sont du coup plus thepiratebay.se, mais on va dire n'importe quoi, mais genre 123.1856.com. Et c'est exactement le site de Pirate Bay, sauf que c'est un tout petit peu plus compliqué à savoir que ces sites existent, pour y aller, parce qu'ils sont très mal référencés dans Google. Mais voilà, du coup là, le tribunal avait autorisé et obligé les fournisseurs d'accès à bloquer aussi ces sites miroirs. Bon, dans la réalité, ça n'allait pas donner grand-chose, parce que quand même la réactivité des internautes et de l'équipe de Pirate Bay allait être telle que ça allait être impossible aux fournisseurs d'accès de suivre le nombre de sites miroirs qui existaient vraiment. Juste, ça allait compliquer les choses, mais ça ne rendait pas le blocage vraiment efficace. Et il y avait tout un tas d'autres trucs qui permettaient de contourner ce blocage. Mais voilà, et ce blocage était quand même, il faut le dire, suite à une plainte de la SCPP, qui est la Société Civile des Producteurs Phonographiques. Voilà. Maintenant, on se rend compte que si voilà, vous aujourd'hui vous essayez de vous connecter au site The Pirate Bay, ce n'est pas parce que il a été bloqué par vos fournisseurs d'accès à Internet, mais parce que la police suédoise a fait un raid sur les serveurs il y a quelques jours, ou c'était peut-être même hier. Un raid sur les serveurs dans la banlieue de Stockholm, du coup là où était stocké le site Pirate Bay. Du matériel informatique a été saisi et une personne a été interpellée car elle est soupçonnée d'avoir des liens avec le site internet. Ces saisies rendent actuellement le site de Torrent complètement inaccessible dans le monde entier. Bon, alors il y a fort à parier que le site réapparaisse dans quelques temps. En 2006, le site internet avait connu une opération similaire où ses serveurs étaient aux Pays-Bas cette fois-ci, et quelques mois après, on retrouvait le fameux site de Torrent à l'adresse que je citais tout à l'heure. Mais Peter Sund, bon, je ne sais pas si je prononce très bien son nom, qui est le cofondateur du site et qui a fait un passage de 7 mois en prison et qui a quitté l'équipe du site de Pirate Bay en 2009, explique que lui, il veut que ce site soit fermé définitivement. Alors bon, a priori, c'est pas juste, c'est pas une des histoires de rancœur personnelle, tout ça, mais lui, il explique que s'il veut que le site ferme, ce n'est pas pour faire une repentance non plus auprès des maisons de 10, mais parce que le site a complètement été vidé de son idéologie. Alors là, il déclare que, et là je le cite, l'accord initial avec The Pirate Bay était de le fermer à son 10e anniversaire. Au lieu de ça, à cette occasion, il y a eu une fête en son honneur. À Stockholm, elle était parrainée par une entreprise sexiste qui envoyait des jeunes filles dévêtues pour distribuer des cadeaux à des clients potentiels. Il dit ensuite, il y avait un billet d'entrée à acheter pour accéder à la fête, excluant de fait les personnes sans le sou. La soirée avait eu une liste programmée d'artistes, au lieu de demander aux gens de venir avec leur propre contenu, tout allait à l'encontre des idéaux pour lesquels j'ai travaillé tout ce temps au sein de The Pirate Bay. Et il avait également expliqué dans une autre interview qu'il fallait fermer, enfin d'autres raisons pour lesquelles il fallait fermer le site, qui était devenu trop gros et qui n'innovait plus du tout, ce qui rendait la technologie des torrents, du coup c'est ce qui fait que quand vous cliquez sur le truc là, voilà, que ça se télécharge sur votre ordinateur, que ça rendait du coup cette technique vulnérable pour les autorités. Bon, alors est-ce que là il a raison par rapport à une interview qu'il avait donnée en 2009, et est-ce que là c'est la mort de Pirate Bay, on sait pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que donc lui, il se base sur plus une technologie est vieille, plus les États peuvent s'adapter pour la censurer. Pour l'instant, c'est assez difficile, mais voilà. Et pour lui, Pirate Bay doit mourir pour que naissent d'autres formes de téléchargement horizontal. Alors on appelle téléchargement horizontal à l'inverse de, par exemple, Mega Upload, qui est un téléchargement direct, mais où c'est un gros serveur avec des gens qui ont plein d'argent qui hébergent vos trucs et vous les téléchargez directement. Voilà, alors que les torrents, c'est plus horizontal, vous téléchargez d'une personne qui a une partie du film à une autre personne, tout ça, tout ça. c'est vachement plus sécurisé et philosophiquement c'est bien mieux. Voilà, et bon bah parce qu'à chaque fois que on peut dire à chaque fois que meurt un site de l'ampleur de Pirate Bay, des centaines d'autres renaissent de ses cendres, on peut dire. Et voilà, et donc oui, en fait, lui, il part du principe que s'il y a bien quand même un truc où la police et les États sont complètement dépassés, c'est sur le téléchargement, car à chaque fois qu'une loi tombe, elle est déjà obsolète.
Et ben ouais, ben du coup, en tout cas, la difficulté de télécharger est tout de suite un petit peu moins grave, dans le sens où le dimanche, au lieu de regarder une bonne série dans son pieu, et ben on va plutôt aller bosser. C'est ça qu'il y a dans le projet de loi Macron qui était présenté aujourd'hui au Conseil des ministres. Donc c'est juste une première présentation. Hein. Alors, ce qu'il y a plus précisément pour l'instant dans ce projet de loi, mais en sachant qu'il risque quand même un petit peu de changer, c'est tout un paquet de choses, hein. c'est une loi, ce qu'ils appellent une loi fourre-tout, là ils ont mis une tonne de trucs différents. Mais alors la mesure phare, c'est donc l'assouplissement du travail du dimanche et du travail de la nuit. Les commerces jusqu'à maintenant peuvent ouvrir jusqu'à 5 dimanches par an, à condition que ce soit le préfet qui les autorise. Sous certains critères, certaines zones, etc. Bon, la loi trouve que maintenant ça va être jusqu'à 12 dimanches par an. Si c'est autorisé par le préfet, et de toute façon 5 dimanches sans autorisation spéciale, tout le monde a le droit d'ouvrir au moins 5 dimanches par an. Quand je dis le préfet, c'est faux, c'est les mairies qui donnent les autorisations et qui pour jusqu'à 5 maintenant et qui les donneront pour jusqu'à 12 plus tard. Dans les zones touristiques, c'est-à-dire, en l'occurrence, il semble que ça concerne essentiellement certains endroits à Paris, mais l'ouverture des magasins va être autorisée jusqu'à minuit. Et alors, la nouveauté qui vient de rejoindre le texte de loi, là, c'est une histoire de compensation salariale pour les salariés et de négociation qui devrait avoir lieu entre les partenaires sociaux. Alors, théoriquement, le travail du dimanche continuera à être volontaire et soumis à compensation salariale. La compensation salariale sera négociée entre les patrons et les syndicats, c'est-à-dire en gros que selon dans quel type d'entreprise vous bossez, la compensation sera un peu en fonction du rapport de force syndical et le volontariat sera en fonction du rapport de force tout court, parce qu'on sait bien ce que c'est le volontariat dans ces cas-là. Au départ, ça va être volontaire dans la théorie. Dans la pratique, on ne sait pas à quelle rapidité, dans certaines entreprises, ça va devenir juste obligatoire. Une bonne partie des députés du PS, il faut bien dire, sont opposés à cette réforme. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette loi ? Il y a des histoires de transport en autocar qui, jusqu'à maintenant, étaient hyper réglementées. Alors ça, bon... Ça a l'air d'être le truc sur lequel Macron s'appuie pour essayer de faire croire qu'il a fait une loi de gauche. Voilà, jusqu'à maintenant, les autocars n'ont pas le droit de transporter des gens d'une ville à l'autre à l'intérieur de la France, ils n'ont pas une destination finale à l'étranger, il y a des trucs chelous un peu comme ça.
Ça vient, il me semble, du fait que la SNCF a le monopole des transports.
Alors c'est possible, d'autant plus que du coup Macron justifie le fait que sa loi est de gauche en disant « À l'heure actuelle, beaucoup de Français sont trop pauvres pour prendre le train qui est trop cher. Le transport en autocar est... » 8 à 10 fois moins cher que le train. Cette mesure de libéralisation du transport en autocar va bénéficier aux familles les plus modestes, les plus précaires, les plus fragiles. Merci monsieur Macron. Si tu avais l'idée à la place de faire quelque chose pour le prix du billet de train, parce que mine de rien, la SNCF est quand même pas encore entièrement privatisée, ça aurait peut-être été pas mal aussi. D'autant plus que quand même en réalité, enfin je veux dire dans les moments où on n'arrête pas de parler d'environnement et tout ça, là, privilégier le transport en car par rapport au train, c'est quand même un peu naze. En tout cas, Macron est persuadé que cette libéralisation du transport par car devrait créer des dizaines de milliers d'emplois. Putain, mais vous rendez... En fait, les routes vont être remplies de milliards d'autocars si tout marche selon ce que dit Macron. Si tout marche selon ce que disent les gens qui s'opposent à cette loi, ça va peut-être créer 3 ou 4 emplois et bon, on ne devrait pas être plus que ça pollué par les autocars.
Et puis ça, maintenant, le grand truc pour justifier toute réforme, c'est de dire que, vu qu'on est en période de crise, ça, il le répète, c'est vraiment de dire que ça va créer de l'emploi, mais juste à un moment où tu sais jamais.
Ouais, c'est ça. Une autre mesure de cette loi, c'est la mesure sur les professions réglementées. Alors ça, c'est pour cette mesure qu'aujourd'hui on a pu voir dans la rue des huissiers de justice, des greffiers.
Attention, les huissiers ne se sont pas fait expulser de chez eux.
C'est ça. Mais toutes sortes de gens comme ça qu'on n'a pas plus que ça l'habitude de voir dans la rue d'habitude. Et en tout cas, eux, ils n'étaient pas contents. Ah, ouais, c'est ça, des notaires. Aujourd'hui, les notaires ont défilé, cagoule sur la tête.
Ils ont ravagé toute la rue de la rue. Ils ont pété toutes les vitrines.
Commerçants, baissez vos rideaux de fer, les notaires défilent. En tout cas, là, qu'est-ce qui se passe? Alors ça, c'est peut-être plutôt on ne comprend pas bien, mais en tout cas, maintenant, tout le monde pourra se mettre notaire ou huissier ou commissaire-priseur.
Ah, pas mal.
Mais ouais, c'est pas mal. Écoute, voilà, si jamais t'as envie de faire commissaire-priseur dans la vie, et ben, il n'y aura plus de numerus clausus, il n'y aura plus de machin où il faudra que l'administration, blabla. T'arriveras, tu diras, ouais, moi, je suis commissaire-priseur, tu ouvriras un petit pas de porte dans la rue. Tu prendras un petit marteau et zou, tu feras des ventes aux enchères.
Conseiller Pôle emploi, voir ce qu'il en pense.
C'est ça. Bon, un peu plus préoccupant, la justice prud'homale est aussi un petit peu attaquée par cette loi. Alors, un chantier complexe, n'est-ce pas, celui des prud'hommes. La réforme vise à simplifier les procédures. Oui.
Attention, salarié, c'est pas bon pour vous.
Et à réduire les délais. La loi prévoit une formation des conseillers et des sanctions en cas de manquement à la déontologie, ainsi qu'un statut de défenseur syndical et un renforcement du pouvoir des inspecteurs du travail et du pouvoir judiciaire surtout, puisque jusqu'à maintenant, les juges prud'homaux sont issus des différentes organisations syndicales et patronales et sont bénévoles. Là, en l'occurrence, ils seront rejoints par des juges professionnels qui devraient chapeauter tout ça. Bon, les syndicats, comme on pourrait s'en douter, sont plutôt hostiles à cette réforme.
Mais, alors, je ne sais pas si tu allais en parler, mais du coup, cette réforme vient juste après qu'il y ait un décret, peut-être, genre, je ne sais pas exactement, qui a été voté sur les prud'hommes, où ça, par contre, les organisations syndicales étaient plutôt pour, mais où maintenant, il n'y aura plus d'élections prud'homales, c'est-à-dire que c'est plus vous ou nous, salariés, qui allons voter pour élire nos représentants prud'homaux, mais ce sera au syndicat des patrons et au syndicat des salariés de nommer ceux qui siègent, ou je sais pas comment on dit, en tout cas au prud'homme.
Ah, et on peut se dire que vu la manière dont fonctionne la démocratie à l'intérieur des syndicats, on va y revenir dans deux infos, ça nous promet le meilleur. Oui, c'est ça. Et du coup, le point nous explique que la réforme vise à s'attaquer à la peur de l'embauche qui est si souvent invoquée par les patrons et qui, du coup, à chaque fois qu'ils veulent embaucher quelqu'un, ils disent « Ah là, mais si je fais ça, après, je vais être traîné devant les prud'hommes à un moment ou à un autre. »
À les écouter, on croirait un peu que c'est un entretien d'embauche, c'est le patron qui est en sueur comme ça, mais et oui, qui risque sa place à chaque moment.
Mais oui, c'est ça le problème du patron. Alors bon, bien sûr, ce que ça implique quand même, c'est que le patron compte certainement jamais respecter le droit du travail. Hein. Parce que voilà, nous dit toujours le point, en cas de licenciement contesté, le chef d'entreprise et le salarié, parce que le point est quand même aussi du côté des salariés, doivent tous deux affronter la lenteur et l'imprévisibilité des prud'hommes. Bon, l'imprévisibilité, en fait, on sait que c'est quand même globalement les salariés qui gagnent, mais c'est que les prud'hommes sont imprévisibles parce qu'ils sont capables à des moments de donner raison aux salariés, et ça quand même, ça fait flipper les patrons, les gouvernants et tout le monde. Et alors pour l'instant, il y a un truc qui s'appelle le délit d'entrave, c'est quand un employeur porte atteinte à l'exercice du droit syndical ou à la représentation du personnel, et jusqu'à maintenant, les employeurs dans ce cas sont passibles d'une peine d'emprisonnement, mais ça aussi bien sûr, ça les fait grave flipper, parce que à cause de ce truc, ils peuvent pas entraver le droit syndical. Heureusement, la loi va remplacer cette peine d'emprisonnement par des sanctions financières qui feront que les patrons, qui finalement font quand même ce qu'ils peuvent pour sauver l'économie, n'encourront plus de risques personnels. Ah. Et d'ailleurs, nous précisons encore une fois le point, cette disposition ce risque d'emprisonnement était considéré comme un épouvantail pour les entreprises étrangères qui souhaitaient investir en France. Là, au moins, elles seront tranquilles, elles peuvent investir. Tout va bien. Ensuite, dans cette loi, nous avons encore 5 à 10 milliards de cessions d'actifs. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire privatisation. Le texte qui est examiné, qui a été présenté aujourd'hui, là, comporte un volet qui avalise la vente par l'État de 5 à 10 milliards d'euros d'actifs dans des entreprises. Bon, c'est-à-dire pas privatisation complète, mais en tout cas, l'État va revendre des parts des entreprises dont il est propriétaire. Alors ça nous dit que 4 de ces milliards seront affectés au désendettement, le reste sera réinjecté dans l'économie, ça veut dire offert en cadeau au patron. Le détail de ce qui sera cédé n'a pas encore été divulgué. Monsieur Macron s'est tenté de préciser qu'il n'était pas question de privatiser EDF, contrairement à ce qui avait été dit. Alors on sait bien, depuis le gouvernement précédent et tout ça, que quand un ministre de droite dit qu'il va pas privatiser un truc, ça veut dire qu'il va le privatiser, mais juste pas tout de suite. Donc EDF, on peut se dire, ne sera pas privatisé, disons, dans l'année qui vient, mais Macron va certainement la privatiser un petit peu après. Voilà. Bon alors, il reste quand même le problème pour le gouvernement de trouver une majorité pour voter cette loi, parce que là, elle est quand même vraiment extrêmement exagérée. D'autant plus qu'en réalité, cette loi est la transformation d'une loi qui avait été prévue par Montebourg quand il était lui-même ministre du redressement productif là. Et que cette loi à l'époque était quand même nettement moins libérale que celle de maintenant, que du coup non seulement la gauche, les gens qui sont à la gauche du PS vont massivement voter contre, mais là sur ce coup-là même une énorme partie, enfin ou en tout cas une partie pas négligeable des gens du PS risquent de voter contre aussi, juste avant que cette loi soit présentée publiquement avec une sorte de grand-messe gouvernementale, Macron sur le devant de la scène, mais 8 ministres derrière lui pour bien montrer qu'il fallait pas essayer de le biser parce que c'était un petit nouveau, mais que tout le gouvernement était solidaire et tout ça. Quelques minutes ou dizaines de minutes avant cette grand-messe, Martine Aubry a fait une déclaration en disant que cette loi était nuisible et qu'elle ferait tout ce qu'elle pourrait pour la combattre. C'est pas entièrement gagné. On a un gars du PS qui a dit « Mon objectif de député de gauche, ce n'est pas de voter toutes les mesures que M. Sarkozy n'avait pas réussi à faire voter et qu'on avait combattu dans l'opposition. » voilà, et j'ai trouvé dans l'humain, là, en 2009, le PS affirmait que, ouvrez les guillemets, le travail du dimanche est inefficace sur le plan économique, dangereux pour les salariés, néfaste pour la vie sociale.
On pourrait leur retourner le compliment, néfaste pour la vie sociale.
Et en 2008, quand c'était François Hollande qui était premier secrétaire, son bureau national estimait que, ouvrez les guillemets, laisser entendre, comme le fait la majorité, donc qui était de droite à l'époque, que l'extension du travail le dimanche peut être une réponse au problème des Français en matière d'emploi et de pouvoir d'achat est une escroquerie. Donc ça, c'est François Hollande dans l'opposition. François Hollande dans la majorité a dit aujourd'hui que c'était une loi, alors je me rappelle plus très bien, mais une loi fondamentale de justice sociale, de blablabla.
Et ben, comme on a un peu des trucs, et ben on n'a pas beaucoup d'infos, et ben on va vous passer une petite musique, et c'est du groupe Dirt, et c'est le morceau Démocratie. Voilà, et ben un petit morceau pour introduire une brève sur la police.
Alors, la police française n'a pas fini de se ridiculiser. La semaine dernière, on vous parlait de flics qui s'étaient trompés de numéro de maison lors d'une perquisition, braquant au passage un ado qui n'avait rien à voir avec rien. Alors là, cette fois-ci, c'est à la Duchère que ça se passe. La BAC intervient sur un coup de fil de riverain qui signale des individus louches et sûrement armés. Ni une ni deux, les cow-boys montent dans leur bolide pour choper ce qu'ils pensent être un braquage en flag. Et ça, les flags, la BAC, ils adorent. Bim bam boum, ils tombent sur cinq types cagoulés et deux autres menottés. Ils braquent tout le monde, plaquent un gars violemment au sol, le gars qui visiblement essaye d'expliquer un peu la situation. Mais pour la BAC, pas d'explication qui tienne et ils embarquent tout le monde au poste.
Ce qui est dommage, c'est qu'il lui ait pas fait une petite immobilisation comme ils ont le secret où les gens après ils meurent étouffés.
C'est vrai, ils auraient pu, mais comme quoi, des fois, peut-être quand les gens essayent de s'expliquer, ils disent « Ouh là là, attendez, on a connu des conneries auparavant, on va peut-être un peu se lever. » Et ben oui, ben, sauf que le type qui essayait de se justifier expliquait qu'il était gendarme et qu'il était aussi là pour arrêter des braqueurs. Et oui, au final, les cinq types louches, cagoulés et armés, c'était bien des gendarmes qui arrêtaient deux braqueurs présumés. Enfin bon, maintenant, on n'est plus sûr de rien. Si ça se trouve, les deux gars qui sont des braqueurs présumés sont deux flics peut-être infiltrés dans une mission pour infiltrer le milieu corso
de la police municipale.
De la police municipale. On ne sait pas. Là, au final, en tout cas, je sais, peut-être à mon avis, si c'était vraiment des braqueurs, et en tout cas, peut-être, on espère pour eux qu'ils n'iront pas jusqu'au procès, mais on ne sait pas. Peut-être ça vaut le coup d'y aller, parce qu'il y a moyen qu'en tout cas, leurs avocats se foutent bien de la gueule des flics. By sinning my virtue, fool. What have you made if you gain the whole world? But sell your own soul for the price of a pole. The world is my oyster, and I am starving. I want much more than a penny or a farthing. I've told no joke. I hope you're not.
Thierry Lepan vient encore de gagner un mois de sursis à la tête de la CGT. Donc, alors, on se rappelle que le Canard Enchaîné nous avait fait quelques révélations il y a déjà quelques semaines sur les dépenses effectuées dans l'appartement de Vincennes de Thierry Lepan par la CGT. Donc, les dépenses effectuées par la CGT dans l'appartement de Thierry Lepan. Et dépense donc dans son appartement 105 000 euros de réparations diverses, dépense dans son bureau 62 000 euros. Et puis récemment, l'expansion nous a expliqué que Thierry Lepan avait touché des indemnités au moment de son départ de la CGT de Basse-Normandie, puisque il ne faut pas du tout croire que Thierry Lepan, comme tous les gens importants de la CGT, soit salarié d'une entreprise et soit syndiqué à l'intérieur de cette entreprise. Ils sont bien salariés de la CGT. Et donc, puisqu'il change de poste, en fait, il a reçu des sortes d'indemnités de départ, ciao, ciao, 31 000 euros.
Pas mal.
C'est ce gars qui donc est le porte-parole des salariés, des syndiqués, des prolos par-ci par-là, des gens qui luttent, enfin, ou en tout cas, et qui se syndiquent à la CGT, c'est-à-dire entre autres plein de gens bien en réalité. Et donc voilà, ça c'est leur porte-parole qui, donc, alors attendez, si on additionne les dépenses de son appartement, celles de son bureau et ses indemnités, on arrive quand même à plus de 200 000 euros, 198 000 euros.
Ah, tu vois, t'exagères tout le temps.
J'ai exagéré encore. Bon, alors Thierry Lepan, là-dessus, a été quand même un petit peu encouragé à démissionner. Mais, pas question. Thierry Lepan, lui, il trouve que non, alors il voit vraiment pas ce qu'on lui veut. Et puis, de toute façon, c'est quand même pas la base qui va prendre les décisions à la CGT. Et puis, bref, en tout cas, démission hors de question. Bon, les lampistes, c'est un peu plus possible, puisque, donc, hier, on a eu une grosse réunion de la commission exécutive de la CGT, réunion pendant laquelle Éric Lafond, l'administrateur trésorier, a lui présenté sa démission, parce que lui il avait avalisé les dépenses en question. Bon, il n'en avait pas profité, hein, c'est quand même bien que de tirer le pont qui a profité, mais lui quand même un peu gêné d'avoir signé pour dire que c'était ok, lui il a présenté sa démission.
C'est ce qu'on appelle un fusible,
mais ceci dit, a priori il devrait quand même pas suffire le fusible. Thierry Lepan du coup avait donc devant le Conseil confédéral national avait reconnu l'existence de responsabilité individuelle dans cette faute collective. Et oui, c'est ça. Précisant à propos des travaux dans son appartement de fonction qu'il existait des failles majeures dans le fonctionnement interne de prise de décision. Mais je veux dire, c'est quand même lui, quoi.
C'est ça. On dirait qu'il parle, il utilise les mêmes arguments que pour le sang contaminé.
Ah ouais, ça ressemble à ça. Puisque les arbitrages et la décision finale pour cette location n'avaient été ni débattus ni validés par une instance. Bah ouais, c'est juste lui qui avait dit filez-moi de la thune, que je la dépense pour ma pomme. Pas de honte, là il dit oui, non, mais c'est que c'est mal foutu, j'aurais pas dû pouvoir faire ça, mais puisque je pouvais, je vois pas pourquoi je l'aurais pas fait, en quelque sorte. Alors ces dernières semaines, les unions départementales et les fédérations de la CGT ont quand même massivement écrit à la centrale pour dire que là quand même il y avait vraiment un gros souci et qu'ils étaient pour donc la convocation dans les plus brefs délais d'une CCN, donc un comité confédéral national, qui est le seul truc qui serait habilité à vraiment virer Thierry Lepant. Et finalement, il a été décidé hier que oui, ça allait se passer, ça sera pour le 13 janvier. On imagine que quand même, le 13 janvier, il sera vraiment dégagé. Après, est-ce que le pire problème de la CGT, c'est les 200 000 euros dépensés par Thierry Lepant, en gros, pour son confort personnel? Bon, je veux dire, c'est un problème, mais c'est surtout révélateur d'une sorte de fonctionnement d'une structure syndicale qui est juste ultra hiérarchisée, où le secrétaire général de la CGT, il mange certainement plus souvent à Matignon qu'à la cantine de chez Renault, où, ceci dit, suite à ça, ses amis, son monde un peu, c'est quand même plus les gens contre qui il est censé lutter que les gens qu'il est censé représenter. Et ceci explique peut-être cela sur souvent des fins de lutte nationale et des manières dont la CGT souvent lance des grands mouvements tambour battant et au bout d'un moment fait retourner tout le monde au boulot un petit peu avant le moment où ça pourrait servir à quelque chose. Et donc voilà. Et donc Thierry Lepant ou le suivant, et toute la question serait de savoir si à un moment ou à un autre, la CGT pouvait fonctionner de manière à ce que les gens qui sont en haut représentent réellement les gens qui sont en bas, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Alors, il y a eu deux personnes qui ont été exécutées dans la nuit d'hier à aujourd'hui aux États-Unis. Un certain Robert Wayne Hosley et un Paul Goodwin. Le premier a été exécuté en Géorgie, l'autre au Missouri, après l'ultime feu vert donné par la Cour suprême. Alors, on va commencer par le deuxième. Donc, Paul Goodwin, lui, sa suspension de peine a été refusée par le gouverneur du Missouri. Suspension de peine qui était demandée surtout parce que c'est un débile mental. Il faut dire qu'il avait quand même buté une dame de 63 ans à coups de marteau après avoir tenté de l'agresser sexuellement. Mais bon, voilà, il était débile, il a été exécuté. Et le deuxième, lui, avait buté un policier. Alors bon, évidemment, les deux sont noirs. Hein, les exécutés aux États-Unis sont quand même noirs, très massivement. Et l'autre, Robert Wayne Hosley, lui, il avait buté un flic blanc. C'était en 95. C'était un moment de protestation raciale aux États-Unis. Et du coup, alors lui, il a été buté, mais bon, son exécution a quand même attendu 4 heures, donc après l'heure prévue, parce que ses avocats ont essayé d'ultimes appels devant la Cour suprême. Et son avocat actuel a insisté sur le fait que Robert Hosley avait été mal défendu au moment de son procès. Donc ça remonte à il y a longtemps, hein, parce qu'il était représenté par un avocat blanc qui était alcoolique chronique et qui était quand même quelqu'un qui, par ailleurs, dans sa vie privée, avait proféré des injures racistes à des voisins noirs et avait été incarcéré pour fraude. C'est lui qui était l'avocat de Robert Hosley. Et bon, voilà. Et alors, en plus, du coup, Robert Hosley, il avait quand même tout le truc de sévèrement battu et humilié par sa mère, blablabla. En tout cas, l'avocat qu'il avait eu au moment de son procès n'avait pas du tout cherché aucune circonstance atténuante ni rien. Bref, la Cour suprême a rejeté ces derniers appels et Robert Hossley a été exécuté. Tout ça se passe à un moment où, bon, quand même, la peine de mort est de plus en plus contestée par une partie de l'opinion publique américaine, même si une autre très grande partie y tient absolument, et aussi au moment où, comme on le sait, les flics, eux, continuent à buter des gens dans la rue et à être purement et simplement acquittés par cette même Cour suprême.
Eh ben, on a fini avec ce Canu Info. Parce que du coup, il n'y aura pas de rubrique, il faut que ça se sache, parce que ce que j'avais prévu de vous dire, ça a déjà été dit la semaine dernière, du coup, vous avez qu'à réécouter le Canu Info de la semaine dernière.
C'est ça.
Eh ben, on finit à moins 20, et ben, on va vous laisser avec 20 minutes de bande continue avant que vous retrouviez Idée Noire, l'émission de la coordination des groupes anarchistes.
Quelle chance vous avez!
Merci de nous avoir écoutés.